Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Bistro Vélo. Il est 19h, passé de quelques petites minutes et les portes du bistro ouvrent leurs portes désormais. On va accueillir notre invité dans quelques instants. Mais d'abord, regardez le menu aujourd'hui qui nous est concocté par Sébastien à l'édition. L'andouille béarnaise en entrée, du poule au pot d'Henri IV en plat de résistance. Et puis en dessert, on terminera par le pastis bourri des plats typiques du Béarn, de notre belle région béarnaise. Et un joli dîner qu'on va déguster dans un instant avec notre invité, Cyril Barthes. Salut Cyril, comment ça va?
Oui, bonjour à vous. Ça va très bien, un mois de récupération pour la prochaine étape de demain.
Bon, c'est un repas un peu lourd après une étape de la Vuelta, ça.
Ouais, bon, un repas, ouais, là, de toute façon, le plus dur effet de la journée maintenant, c'est basé sur la récupération, bien manger, être massé et surtout bien dormir. Ça, c'est le bon, on va dire, après une étape très dure en montagne.
Ah, tu viens de finir, là, t'es dans le bus, on raconte un petit peu les coulisses, t'es dans le bus de ton équipe Burgos BH. La petite douche et là on attend de rentrer à l'hôtel pour aller se faire masser.
Ouais, c'est ça, donc terminé. Bon, la première chose qu'on fait souvent, c'est recharger les batteries, donc bien manger. Et puis voilà, j'ai eu le temps quand même de manger. Et ensuite, je vais une fois arrivé à l'hôtel, prendre un bon massage, remanger de nouveau pour de nouveau recharger les batteries. Et puis ensuite, ça sera le moment de dormir.
Ça a été aujourd'hui? Comment ça s'est passé cette troisième étape de la Vuelta pour toi?
Ouais, donc troisième étape, enfin, qui n'était pas sous la pluie. Donc ça fait du bien de retrouver le soleil. Étape de montagne avec deux cols, voilà, très très durs, une bagarre dès le début de course. Beaucoup d'équipes étaient intéressées, donc forcément il y a eu la bagarre. C'est sorti, je crois, kilomètre 30. Donc voilà. Sinon, en règle générale, après une fois que l'échappée est arrivée, c'était les cadors dans les grands cols. Donc, pour ma part, ça a été les deux cols déjà un peu plus tranquilles qu'eux.
Bon, on est en train de se revoir, nous, l'arrivée justement de cette troisième étape en haut de ce col à Andorre. Et la victoire donc qui est revenue à Remco Evenepoel, le champion de Belgique. Remco Evenepoel qui s'impose assez facilement hein, devant Jonas Vingegaard et Juan Ayuso, avec une belle place dans le top 10 pour Lenny Martinez. Et puis on a vu cette image assez forte, hein, c'est l'une des images marquantes de cette troisième étape de la Vuelta, c'est le visage ensanglanté du vainqueur du jour, Remco Evenepoel, qui après l'arrivée, eh bien, a fait un tout droit avec les assistants des différentes équipes qui étaient placés à 50 mètres de la ligne d'arrivée par les organisateurs. Et Remco, il a pas pu éviter une assistante, notamment. On espère que ça va bien pour l'assistante. Je t'ai montré, évidemment, t'avais pas eu encore eu le temps, toi, Cyril, de voir cette image. Je te l'ai envoyée, c'est assez impressionnant, hein.
Non, exact, ouais, je viens de la voir, je viens de visionner donc cette vidéo. Ouais, c'est assez impressionnant, surtout après une telle joie. On est si content de gagner et après derrière on tombe, donc ça fait jamais plaisir. J'espère pour lui qu'il va bien, j'espère aussi que l'assistante va bien et que tout le monde n'a pas trop de bobos.
Bon, tu es passé aussi sur cette arrivée un petit peu après Remco Evenepoel, 22 minutes après, mais ça faut pas le dire. Y avait autant de monde aussi, c'était dangereux l'arrivée?
On va dire que je suis passé déjà beaucoup moins vite que lui. Déjà, c'est un bon point. J'ai pu freiner déjà bien plus rapidement. Donc ouais, mais il y avait bien sûr les assistants qui étaient là pour nous soutenir et pour bien sûr prendre tout le nécessaire pour descendre, parce qu'aujourd'hui, il fallait descendre le col en vélo. Donc il a fallu donc vite se couvrir pour pas prendre froid et aller directement au bus, comme j'ai dit, pour bien récupérer, parce que il reste encore pas mal d'étapes devant nous.
À tout hasard, c'était pas votre assistante, hein, si tu as des nouvelles à nous donner de cette assistante qui a été percutée malheureusement par Remco. C'était pas votre assistante, vous, à la Burgos BH, tout hasard?
Non, pour le moment, voilà, c'est déjà c'est l'assistant, donc je crois
Ah.
pas qu'il a les perruques. Donc normalement c'est bon.
C'est vrai que c'est une image qui vient aussi après un début de Vuelta assez compliqué, hein. On parlait notamment de la météo avec cette première étape sur ce contre-la-montre inaugural dans les rues de Barcelone, Cyril, contre-la-montre par équipe, avec de nombreuses chutes. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, tout ça? Il y a eu la pluie, il y a eu aussi la nuit.
Ouais, mais c'est vrai que on a passé une semaine. Il faut savoir que on arrive souvent le mercredi pour la course au samedi. Donc on a eu la grosse canicule à Barcelone, des grosses chaleurs avec un grand soleil. Et bien sûr, voilà, la pluie s'est invitée seulement le samedi soir. Donc pour le chrono, donc on croisait les doigts, on espérait qu'il pleuve pas pour ce chrono. Mais malheureusement, voilà, on n'y a pas échappé. Et on savait que ça allait être très glissant, donc fallait prendre beaucoup de précautions parce qu'on pouvait perdre gros.
T'avais gonflé à combien, toi, à peu près, avec cette chaussée détrempée dans les rues de Barcelone?
Nous, donc, on était en boyau, donc sur les boyaux, j'avais 4,5 kg. 4,5 kg
4,5 kg.
pour. Voilà, donc on avait quand même bien, bien enlevé de la pression pour surtout, voilà, pas prendre de risques et pouvoir accrocher sur la route mouillée.
On revoit le départ de ta formation Burgos BH d'ailleurs, et même sur la rampe de lancement, on voit les roues arrière qui patinent. On était vraiment sur des œufs. Il y a eu, j'imagine, des moments où vous êtes fait quelques frayeurs, Cyril.
Non, forcément, ouais. Surtout qu'il y a beaucoup de peinture, beaucoup de lignes blanches. Donc, faut vraiment regarder où on met les roues et pas prendre trop de risques. Surtout, voilà, nous, notre équipe, on savait qu'on pouvait pas jouer la victoire face à des équipes comme Ineos ou Jumbo ou même ADSM qui a gagné. Donc, voilà, nous, notre objectif, c'est de pas tomber, prendre du plaisir, bien sûr, pour avoir une bonne dynamique sur la Vuelta. Mais avant tout, pas prendre trop de risques en dégonflant déjà les roues pour moins glisser.
Bon, on commençait à voir justement sur le départ de la Burgos BH, ton équipe, que l'obscurité commençait à arriver avec les phares des voitures derrière qui commençaient à vous éclairer d'ailleurs, plus que les lampadaires. Certains lampadaires n'étaient pas allumés d'ailleurs sur certains endroits du parcours. Est-ce que tu as compris, toi, la colère de Remco Evenepoel et son équipe de la Soudal Quick-Step qui sont même arrivés, eux, complètement dans le noir? Remco Evenepoel parlait, a notamment dit cette phrase: Nous ne sommes pas des singes dans un cirque. Est-ce que tu as compris cette colère de Remco Evenepoel?
Mais je pense qu'en fait, beaucoup de monde a été surpris, forcément les coureurs, parce qu'on ne s'y attendait pas à que les derniers passent sous la nuit, mais également les organisateurs. Les organisateurs, ils n'avaient peut-être pas prévu qu'il pleuve autant, que la lumière, voilà, se puisse s'estomper comme ça. Donc, je pense qu'ils ont été les premiers surpris. Donc, forcément, la pluie, plus les chutes, plus voilà, la nuit, ça a été un cocktail qui a un peu déçu du monde, mais bon. Je pense que c'est difficile d'organiser, donc je tiens mon chapeau sur les organisateurs.
Et puis dimanche, hein, pour finir sur ce début de Vuelta, malheureusement un peu chaotique, on a gelé les temps à 9 km de l'arrivée. C'était la décision la plus sage selon toi, toi qui as fait ce final. Là aussi, ça glissait beaucoup avec ce final assez technique. C'était une décision sage. On rappelle que la décision a été prise avant le départ, hein, de cette deuxième étape.
Ouais, après du moment où la décision a été prise avant le départ, tout le monde le sait, donc voilà, on l'a en tête, on sait qu'il faut on sait que l'objectif pour les leaders, c'est à 9 km. Ça enlève de la pression, ça enlève peut-être des chutes également, parce qu'il faut savoir que ça a glissé vraiment pendant tout le parcours, les descentes, il y a eu de nombreuses chutes. Je pense que beaucoup de coureurs sont tombés, mais bon, voilà, ça fait partie du vélo. On sait que dans ces zones-là, s'il pleut, ben, ça glisse beaucoup. On avait eu un exemple sur Nice, au Tour de France. Il y avait eu beaucoup de chutes, mais bon, après, voilà, comme j'ai dit, ça fait partie du vélo et faut aussi savoir passer ces journées-là.
On a vu également une image juste avant, c'était la Jumbo-Visma qui tentait de neutraliser un peu par eux-mêmes avant d'arriver sur le parcours final, sur Montjuïc notamment, sur la montée. Est-ce que toi tu les as vus, les Jumbo-Visma, avec Jonas Vingegaard demander de temporiser un petit peu, avec Pascal Enkhorn aussi, Dylan Van Baarle et Remco Evenepoel qui a demandé aussi à ce que ça se calme, qu'on ralentisse l'allure dans le peloton. Est-ce que tu as vu ces gestes-là? Est-ce que toi tu les as compris, ou est-ce que tu étais un petit peu comme la DSM ou la formation Alpecin Phoenix, Alpecin de Koenig, à ne pas être d'accord avec la Jumbo-Visma?
Mais on va dire que moi, je suis un peu de l'autre côté de la barrière. Du moins, si moi je tombe, personne ne va m'atteindre. Donc, forcément, je vais dire que je ne comprends pas trop. Après, voilà, je pense que c'est des coureurs qui jouent. Enfin, bien sûr, ils jouent le général. Donc, il y a beaucoup plus d'attentes et beaucoup plus de risques. Donc, voilà, forcément, tout le monde a ses propres intérêts. Après, de là à le comprendre aussi, malheureusement, c'est la course. Mais le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de blessé. Mais sinon, ouais, c'est sur le moment, c'est difficile à comprendre quand on est sur l'effort et qu'on a envie de défendre ses propres intérêts.
Bon, on nous a posé pas mal de questions déjà sur le chat. J'arrive pour poser quelques questions à Cyril. Il y a d'autres coureurs qui ont également posé des questions. C'est le cas notamment pour un de tes anciens coéquipiers qui court aujourd'hui pour la formation Groupama FDJ. C'est Quentin Paché qui te pose une question. On l'écoute.
Hello Cyril, d'abord un petit mot pour te féliciter dans ta clairvoyance pour ta préparation pour la Vuelta. On peut voir que aller se préparer en Norvège en termes d'acclimatation pour ce départ à Barcelone, c'était une excellente idée, donc bravo à toi. Et ensuite, ben, j'avais une petite question. On sait qu'il y a beaucoup de cyclistes, une fois la retraite, qui se mettent au triathlon ou au ping-pong. Et c'était pour savoir, toi, si tu étais toujours aussi proche de l'aviron bâillonné pour jouer troisième ligne ou si jamais tu te dirigeais plus vers une carrière dans la pelote basque. Voilà, salut à tous.
Voilà pour la question de Quentin Paché, de Papache. Pelote basque ou rugby du coup?
Ouais, ben on va dire que étant jeune, j'ai fait les deux.
Ah
Donc
ouais?
ouais, étant jeune, j'ai fait les deux. C'est vraiment quelque chose de spécial et c'est quelque chose où on joue des petits dans ma région. Donc rugby plutôt pour voir, car maintenant je sais ce que c'est les coups et c'est dur à encaisser. Et pelote basque, on va dire, c'est plus ludique et c'est là où on va moins se blesser.
Et la petite préparation au Tour de Norvège, comme nous dit Quentin, c'était du génie en fait, d'avoir prévu qu'il allait faire un temps de chien à Barcelone pour le début de la Vuelta.
Ouais, c'est clair. Là, c'est clair. C'est vraiment de la pure chance. Je peux l'avouer. Mais on va dire que ouais, là, c'était pas forcément le top du top, car j'ai attrapé un petit rhume après la Norvège, donc ça m'a un peu pénalisé là sur mes sensations. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, on prend le calendrier qu'on a et puis après on va de l'avant.
Bon, question dans le chat de Cynthia qui te demande, qui va gagner selon toi cette Volta?
Ah ben ouais, c'est vrai que c'est il y a beaucoup de favoris, beaucoup d'outsiders, c'est difficile à voir. Mais ce soir, quand on voit le Remco, comment il a pu dominer, il est bien parti. Mais bon, je pense que une équipe comme la Jumbo, qui est très très armée, n'a pas fini de donner beaucoup de guerre à la Quick-Step.
On a Seb qui te demande quelle ambition pour Dani Navarro.
Ah, mais Dani, il a toujours autant d'envie, toujours autant la niaque. Donc, je pense que ça va se faire petit à petit. Il a envie d'aller chercher le meilleur résultat, d'aller prendre les bonnes échappées en montagne. Donc, à mon avis, ça va réussir à pouvoir, pourquoi pas, prendre une échappée qui va au bout et jouer le meilleur de son niveau.
Et toi, tes objectifs pour ta deuxième Vuelta, c'est quoi?
Les objectifs, c'est déjà, j'ai dit. Prendre une échappée qui va au bout, c'est toujours important pouvoir jouer la victoire. J'espère qu'il y aura des occasions et j'espère que j'en ferai partie. Et puis également dans les finaux un petit peu à comité réduit, j'espère pourquoi pas m'y rendre sur certaines étapes. Donc on verra, on va aller de jour en jour. J'espère retrouver de bonnes sensations au fur et à mesure et puis aller chercher le meilleur résultat possible.
Il y a Guillaume Di Gradia qui nous demande et l'accent. Est-ce que Adrien Petit te comprend? Est-ce qu'on te comprend bien?
Avec Adrien, mais ouais, j'ai eu l'occasion de plusieurs fois lui parler d'ailleurs. Mais normalement, c'est toujours répondu. Lui m'a compris, donc normalement, c'est bon.
Bon, bah c'est parfait. C'est ta deuxième Vuelta, je le disais, Cyril, deuxième Vuelta de ta carrière. La première, c'était avec Euskadi Murias, ta première équipe pro. C'est un grand tour que tu apprécies, la Vuelta?
Ouais, c'est vrai que ma première Vuelta, je l'avais appréciée en 2019. C'était d'ailleurs mes premiers top 10 en World Tour. Donc forcément, j'avais voilà, beaucoup d'envie et l'envie de bien faire. Donc cette année, c'est pareil, j'ai des bons souvenirs. Donc quand on a des bons souvenirs, on a toujours envie d'y repartir. Et là, c'est le cas, j'ai l'opportunité donc avec Burgos BH d'y être. Donc j'espère saisir certaines opportunités.
Ouais, tu avais pris une huitième place, notamment en 2019, sur la troisième étape qui s'était terminée par un sprint massif remporté par Sam Bennett. Est-ce que on te reverra sur des emballages finaux sur cette Volta?
Ouais, pourquoi pas essayer d'aller me placer, essayer d'aller jouer un top 10, c'est toujours important pour l'équipe. Après, voilà, je suis pas un pur sprinter, j'ai pas la puissance d'un vrai sprinter, donc va falloir que je sois malin, va falloir que je me faufile, et puis pourquoi pas aller chercher un top 10, comme j'ai dit, et ça ferait du bien, bien sûr, à l'équipe, mais également pour moi, pour la tête.
T'as souvent couru avec les équipes espagnoles, donc notamment chez les amateurs, dans la fondation Euskadi. Après, t'es passé pro avec Euskadi Murias. Là, tu reviens au sein de cette formation Burgos BH. Tu as une affinité particulière avec l'Espagne?
Ouais, mais c'est vrai que c'est l'Espagne qui m'a ouvert les portes du monde professionnel. J'ai également fait mes premières courses amateurs élite en Espagne. Donc, forcément, j'ai côtoyé des personnes qui m'ont soutenu et qui sont espagnoles. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose de spécial pour moi et quelque chose qui me tient à cœur parce que j'oublie pas les personnes qui m'ont aidé et qui m'ont poussé vers le niveau professionnel.
5 grands tours hein, dans ta carrière, c'est ton cinquième donc avec cette deuxième Vuelta. Tu as fait 3 tours de France aussi avec BNB Hotel. Question toute simple, tu préfères le Tour de France ou la Vuelta?
Mais je vais dire, ça dépend de la forme. Ça dépend de la forme, ça dépend des sensations. Quand on est bien, tout va bien, donc on aime tout. Quand on est moins bien, c'est déjà un peu plus la galère et on apprécie beaucoup moins. Mais bon, c'est sûr que le Tour de France, ça reste quand même le Graal. C'est quand même le Graal médiatiseur. Avec la médiatisation qu'il peut y avoir, les Français, quand on est Français, la famille, les amis qui sont là. Donc le Tour de France, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel pour un coureur.
Et les amis, ils étaient là lors de la 9e place sur la plus belle avenue du monde, sur les Champs-Élysées, quand Wout van Aert s'impose sur ce Tour de France. Ça reste un grand souvenir, ça aussi?
Ouais, c'est clair, ouais. C'était un beau souvenir. Il y a mes parents qui me soutiennent depuis tout petit qui étaient là. Donc, ça, c'était un réel plaisir de pouvoir être voilà, sur l'écran, hein, sur le top 10 et qu'ils soient là. Il y avait également ma copine qui était là qui me soutient. Donc ça fait plaisir, ouais, de leur rendre un petit sourire.
Je crois, sans dire de bêtises, que tu as terminé tous tes grands tours. Avec le cinquième, on te souhaite de le terminer également. Ça a une importance particulière pour toi ou c'est anecdotique?
Non, je pense que c'est quand même toujours important quand on fait les choses, on aime bien les faire jusqu'à la fin. Du moins pour ma part, c'est comme ça. Donc après, il y a toujours des anecdotes qui peuvent arriver, les chutes, les maladies, tout ça, ce sont des aléas qui peuvent survenir et vraiment là, on n'a pas le choix de d'arrêter. Donc c'est toujours un coup de mou, mais bon, tant qu'on peut continuer, je pense qu'il faut pas baisser les bras et finir.
C'est parti pour le questionnaire Bistro Vélo, des réponses, des questions courtes, des réponses courtes, mais toujours des bonnes réponses, évidemment, des réponses sincères. Ta course préférée, Cyril, c'est quoi? C'est laquelle?
Ma course préférée, enfin on va dire celle qui m'a fait le plus rêver étant jeune, je pense que c'est Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est vraiment la course qui m'a fait rêver, c'est celle que j'ai regardée à l'école, à la télé depuis tout jeune. Donc ouais, celle-là m'a vraiment fait rêver. Après, ma course préférée en tant que coureur, ça je sais pas puisque je l'ai jamais faite. Et puis c'est quand même voilà de sacrés coureurs qui sont, mais celle qui m'a fait le plus vibrer.
Ah, tu l'as jamais faite. J'étais en train de me demander qu'est-ce que tu ferais sur un Paris-Roubaix. Et j'ai été surpris aussi en épluchant ton palmarès de voir que tu avais déjà fait un petit top 20, notamment sur un Trobreloon. Tu en as fait 3, je crois que tu as terminé les 3 Trobro. Je me suis dit que tu devais pas être très habile sur les Ribinous, les Ribinous bretons. Puis finalement, si, Paris-Roubaix, ça pourrait peut-être te convenir aussi.
Ouais, mais bon, on sait que Paris-Roubaix, c'est vraiment le niveau World Tour, c'est vraiment les grosses pistes qui sont avec de grosses puissances. Après, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est peut-être, je suis peut-être un peu léger niveau puissance pour Paris-Roubaix, mais bon, ça serait toujours une fierté d'y être et de faire le meilleur possible.
Le coureur qui te faisait rêver quand tu étais gamin, est-ce que tu accrochais un poster dans ta chambre d'un coureur?
Ouais, je pense qu'un coureur qui m'a fait rêver, que je regardais à la télé au Tour de France, bien sûr, sur la chaîne gratuite, donc c'était Sylvain Chavanel. Sylvain
Sylvain
Chavanel, je
Chavanel.
pense qu'il m'a fait. Ouais, c'est vrai que si sa victoire de Tour de France, ça m'a fait vibrer.
Ton surnom dans le peloton?
Ah, et le surnom dans le peloton, c'est venu ouais, de mon ancienne équipe, donc ça a été plutôt Bartas, ouais. On va dire Bartas, et ça a été un peu mon surnom qui m'est arrivé.
Si tu n'avais pas été coureur pro, quel métier aurais-tu fait?
Alors, si je n'aurais pas été pro, alors ça a été un peu, c'est un peu compliqué parce que j'ai fait des études dans le bâtiment. Donc, j'ai eu un BTS bâtiment. Donc, voilà, ça c'est vraiment dans le bâtiment. Mais je pense que sinon, je me serais orienté. Un métier que j'ai toujours fait, c'est aider les personnes handicapées. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré, du moins pour les aider, et qui a toujours fait quelque chose. Donc, je pense que je me serais orienté vers ça.
La chose que personne ne sait sur toi, est-ce que tu as une particularité? Est-ce que tu sais jouer du violon? Est-ce que tu es passionné par les papillons? Est-ce que tu as une phobie particulière, une phobie drôle, une superstition? Quelque chose?
Quelque chose que personne ne sait de moi.
Ouais.
Ah, mais si personne ne sait de moi, c'est qu'il ne faut pas savoir, je pense,
C'est qu'il faut le garder secret. Bonne réponse, bien
donc.
joué.
Non, je pense que j'aime un peu tout dans la vie. Donc, honnêtement, il y a tout qui m'attire. Je suis curieux pour tout, que ce soit sport ou autre. Donc ouais, je pense que je suis une personne très curieuse et qui aime la vie.
On a un autre coureur qui a tenu à te poser une petite question. Lui, il est bien dans ton équipe, dans la Burgos BH. C'est l'autre Français de cette équipe, c'est Clément Aleno qu'on écoute.
Bonjour à tous, salut mon petit Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'ai une petite question pour toi. Donc quelle est ta chanson préférée et est-ce que tu peux nous la chanter? Je te pose cette question car je sais que tu aimes bien chanter et que tu es attaché à tes racines, à ta région et aux musiques de ta région, que tu me l'as montré à plusieurs reprises dans les chambres d'hôtel et même durant les courses. Donc j'espère que tu vas pouvoir répondre à cette question et nous chanter un petit refrain. Sur ce, je te souhaite une très bonne Vuelta et à bientôt.
Eh ben voilà, au moins Clément, lui, nous apprend quelque chose que personne ne savait sur, sur Cyril Barthes, c'est qu'il aime bien chanter, Cyril. Alors, une petite chanson.
Non, c'est vrai qu'avec Clément, je suis très souvent en chambre avec lui et on a tendance à toujours bien rigoler et à mettre toujours de la musique. Donc, je sais ce qu'il a derrière la tête, mais je vais pencher sur, je suis penché sur une musique comme Joe Dassin, Siffler sur la colline. C'est un petit clin d'œil à ma famille et à ma copine. C'est vrai qu'on avait tendance à souvent l'écouter dans la voiture pour y chanter. C'est des paroles faciles, donc voilà, c'est cette musique-là que je dirais.
C'est quoi? C'est une maison bleue adossée sur la colline? C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là,
Bah,
je te confonds?
une
Ah, j'ai pas une très bonne culture
maison.
de la musique française, c'est pour ça. Joe Dassin, bah j'écouterai. Je la mettrai
Ouais, voilà, ouais.
sur mon téléphone juste après cette émission. Première Vuelta, on le disait, une épreuve qui t'a réussi. 8e place, hein, c'était tes premiers top 10, tu le disais tout à l'heure, Cyril. On va peut-être se les revoir. 8e place, 7e place. C'est des grands souvenirs et j'imagine que c'est aussi ton objectif cette saison, c'est de revenir sur un top 10 pour ta nouvelle équipe Burgos BH.
Oui, bien sûr, on est une équipe invitée. C'est toujours important de se montrer dans les échappées, être offensif, mais également être dans le top 10. Pour l'équipe, c'est toujours un résultat qui récompense tout le staff et l'équipe. Donc, j'espère que la forme sera là pour y parvenir. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en aurai le maximum.
9 septembre, est-ce que cette date te dit quelque chose? 9 septembre 2023, est-ce que tu l'as coché au calendrier?
Ouais, c'est vrai que le 9 septembre, c'est vraiment une journée particulière. 9 septembre, c'est le départ de Sauveterre de Béarn, donc sur la Vuelta 2023. C'est mon village de cœur, mon village d'enfance. Donc, ouais, ça sera, je pense, une journée mémorable pour moi. Mes amis, ma famille seront là. Donc ouais, j'ai hâte d'y être. Même si le parcours est très, très dur, c'est très montagneux et je vais pas me mentir à moi-même, ça va être très compliqué pour jouer un résultat. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que je vais prendre du plaisir dès le départ. Et puis ensuite, on verra bien.
Est-ce qu'il y aura un virage Barthes comme le virage Pinot qu'on a vu sur les routes du Tour de France?
Un virage Barthes, je sais pas, mais j'espère qu'il y aura le village Barthes, en tout cas, qui sera bien présent.
Bon, sinon, comment tu la trouves ta saison 2023 depuis ta première course sur la Tropicale Amissa Bongo et puis ces premiers jours de la Vuelta, Cyril?
Ouais, mais ça a été, il y a eu de tout. Il y a eu du bien, du moins bien, comme on peut connaître en tant que cycliste. J'ai démarré au Gabon sur la Amissa Bongo Botraco. Donc, ouais, ça a été une découverte pour moi. Pour se mettre en confiance et pour préparer, c'est chouette. Ensuite, j'ai enchaîné certaines places sur tout le début de saison, avec notamment une victoire en classe 2 donc, sur la Volta à l'Intero. Et après, un petit coup d'arrêt sur le Tour de la Sarthe avec deux côtes cassées qui m'ont pénalisé sur le reste un petit peu de la moitié de saison. J'ai eu du mal à m'entraîner avec des grosses intensités, mais bon, ensuite, je me suis penché vraiment pour la préparation ici en fin de saison sur la Volta. Donc, bon, voilà. Il y a eu du bien et du moins bien. C'est comme ça.
Tu écriras 10 fois, c'est ta punition tropicale à Missa
Promis
Bongo.
ça, tropical Amissa Bongo, exactement, ouais,
Voilà,
c'est ce qu'il
là c'est bon, là c'est parfait. Donc ouais,
dit.
saison en demi-teinte, mais quand même, tu as levé les bras, tu l'as dit, cette saison sur la Vuelta ao Alentejo. Ben tiens, c'est moi qui bug là.
Ouais,
C'était
donc 10 fois à l'interro, hein.
Au Portugal. Ça fait toujours plaisir de lever les bras. On voit la photo, on te voit tout sourire, évidemment, lever les bras devant notamment Francisco Guerrero et Jorge Luis Aular pour la formation Caraual, qui fait d'ailleurs lui aussi la Vuelta. Ça fait toujours plaisir de lever les bras.
Ouais, exactement. Bon, on sait que quand on est coureur, on fait beaucoup de sacrifices, tous les uns que les autres. On se met beaucoup de contraintes. C'est pour avoir ces moments-là, même que ce soit en classe 2 ou autre. C'est toujours important de lever les bras. Ça fait plaisir à nous, ça fait plaisir à l'entourage. Donc, c'est une récompense un petit peu de tout l'investissement qu'on peut mettre.
17e des France également cette saison, c'est peut-être aussi une satisfaction, quand on sait que c'était très dur, il faisait très chaud, un parcours ici très difficile avec plus de 4000 mètres de dénivelé, ça reste une belle perte de rentrer dans le top 20.
Ouais, c'est vrai que je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'était un championnat de France très très dur, avec de la chaleur et un sacré dénivelé. Mais ça s'est fait petit à petit. Je me suis jamais relevé, je me suis accroché et puis j'ai pu décrocher un top 20. Donc terminer le France sans sachant qu'il n'y a que 23 finishers, c'est toujours une satisfaction. Et puis comme j'ai dit, on s'entraîne pour aller chercher des objectifs. Donc ouais, c'était quand même, je pense, une satisfaction personnelle parce que voilà, c'était très très dur.
Un championnat de France, d'ailleurs, tu as déjà été toi, hein, champion de France, c'était chez les Espoirs à Plougastel en Bretagne. L'un des plus grands souvenirs de ta carrière?
Ouais, c'est vrai que c'était vraiment chouette, c'est vraiment un beau moment. De toute façon, quand on met le maillot tricolore, c'est toujours un grand moment. Faut savoir qu'il y avait aussi mes parents qui étaient présents, donc ouais, c'était un moment plein d'émotions et donc je l'ai forcément gardé dans un coin de ma tête.
On a une autre question. Il ne court plus. Par contre, il suit bien le Tour d'Espagne, évidemment. C'est David Moncoutier. Lui aussi, il connaît bien le Sud-Ouest. Et ben justement, on va l'écouter, David Moncoutier, notre roi de la pédale, qui a une question pour toi.
Salut Cyril, toi qui résides maintenant sur la Côte d'Azur, est-ce que nos belles routes du Sud-Ouest te manquent pas un petit peu?
Alors, le Villeneuve. Comment on dit de Villeneuve-Loubet d'ailleurs, quand on est habitant de Villeneuve-Loubet sur la Côte
Ah,
d'Azur?
ben là, faut savoir que j'ai pas eu l'occasion de trop regarder. Bon,
On va
honnêtement,
chercher.
je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé.
On va regarder. Et du coup, les routes du sud-ouest, ça te manque un petit peu, comme le demande David?
Bon, mais forcément, le sud-ouest, ça reste l'endroit où j'ai vécu pendant de nombreuses années. Donc, j'ai tous mes repères là-bas. Donc, dès que j'ai l'occasion d'y aller, j'y retourne. Et puis, je retrouve mes amis, mes ma famille, mes copains du vélo et puis les belles routes où je peux faire les entraînements.
Alors, Villeneuve-Loubet, le gentilé, Villeneuvois. Voilà, Cyril, tu es un
Voilà.
Villeneuvois. Comme
Ville de voix.
ça.
Heureusement que je ne l'ai pas dit, sinon ça aurait pu faire la même que Tropicana
Et là, tu aurais été encore puni.
Missabongo.
On sait que tu es dans cette équipe Pro Team espagnole. Tu n'as pas forcément le calendrier le plus conséquent par rapport notamment à certaines Pro Team françaises. Est-ce que ça change quelque chose dans une saison quand on est coureur cycliste professionnel?
Ouais, je pense que ça dépend des coureurs. Mais forcément, oui, ça change un peu quand on a l'habitude de beaucoup courir et voilà, de chercher sa forme sur les compétitions. Ça peut être handicapant, mais bon, il faut savoir s'adapter. On est déjà bien content, voilà, d'avoir un bon calendrier donc, en 2023. Et puis, il faut s'adapter, comme j'ai dit, et puis faire le meilleur après sur les courses.
Il y a une question qui revient pas mal également sur le chat. Les gens veulent savoir, Cyril, est-ce qu'en 2024, tu seras toujours en violet?
2024, mais ça d'abord, j'ai envie de passer la Volta, faire le meilleur résultat que je puisse faire, et puis ensuite, je verrai ça à la fin de la Volta, comment ça se passe.
Bon, on te souhaite évidemment de retrouver une grande équipe, et pourquoi pas le World Tour d'ailleurs. Le World Tour, intégrer une équipe World Tour, c'est un rêve pour toi?
Mais ouais, forcément, le World Tour, on sait que c'est la plus grosse division dans le cyclisme mondial. Donc, ouais, c'est bien sûr un rêve, c'est bien sûr aussi un objectif. Pouvoir être équipier également, aider des personnes du World Tour, c'est forcément quelque chose qui m'intéresse et qui me motive. Donc, ouais, c'est toujours quand on est amoureux du vélo, du moins, c'est très encourageant de vouloir faire les choses à 100% et aller chercher sa meilleure forme humaine.
Est-ce que tu as toujours des contacts avec tes potes de ton ancienne équipe, la BNB Hotel? On sait que malheureusement l'équipe n'a pas pu continuer. Est-ce que tu as toujours des contacts avec les anciens copains?
Ouais, bien sûr, faut savoir, ouais, avec les réseaux sociaux, c'est toujours plus facile de longtemps. Donc, dès qu'on peut s'envoyer un petit message et quelques petites nouvelles, on le fait et c'est toujours agréable de se souvenir des bons moments qu'on a pu passer ensemble.
On a une dernière petite question. Elle vient de nous parvenir, celle-ci. C'est Julien Bernard.
Salut mon Cyril, salut la team Eurosport. Bon, on vient de terminer la troisième étape tous les deux dans le groupe Eto, mon Cyril. Donc on aura des jours meilleurs, j'espère, à partir de demain. Moi, bon, j'ai une petite question pour toi. Maintenant, t'es plus un sudiste de l'Est ou un sudiste de l'Ouest? Parce que t'as les deux casquettes maintenant, donc va falloir choisir, et pour l'accent aussi. Allez, je t'embrasse, à demain. Ciao mec.
Alors, la réponse de Cyril à Julien
Non,
Bernard.
c'est vrai qu'on a passé la bonne journée dans le groupe et tous les deux on s'est toujours échangé deux trois mots pour se motiver car c'est jamais trop agréable dans le groupe et tout, mais bon, il faut passer par là. Après, pour lui répondre, je pense que je reste quand même le garçon du Sud-Ouest. C'est quand même bon, mes années, mes bons souvenirs de ma jeunesse et ma famille qui est là-bas. Mais bon, actuellement, ouais, forcément, je suis dans l'Est et c'est très agréable aussi également.
D'ailleurs, tu y retourneras du côté de Sauveterre de Béarn. Ce sera le 9 septembre pour cette étape de la Vuelta. D'ailleurs, demain, nouvelle étape, la quatrième de la Vuelta, à suivre évidemment sur les antennes d'Eurosport et l'application GCN. Cette semaine, vous pourrez suivre également samedi la classique Lorient Agglomération pour les femmes. Et dimanche, on aura la magnifique Bretagne Classique, Classic World Tour. Et puis, commencera également dimanche le Tour de Grande-Bretagne. Demain, la Vuelta. On retourne sur un terrain qui va peut-être un petit peu plus te convenir, Cyril. Peut-être l'une des rares opportunités pour un sprint massif?
Oui, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui seront intéressées par cette étape. On sait qu'il y a quand même quelques sprinteurs qui sont là, donc ils ne voudront pas louper leur chance. Il n'y en a pas beaucoup sur cette Vuelta, donc voilà, on verra bien ce que l'équipe va nous dire, notre équipe Burgos BH, les consignes qu'on va avoir. Mais forcément, oui, c'est une étape qui a un bon profil. Donc, j'espère bien récupérer, avoir de meilleures sensations et puis tout donner. Chercher le meilleur résultat, comme j'ai pu le dire auparavant.
Bon, ben on te le souhaite en tout cas, Cyril. Merci beaucoup de nous avoir donné ce petit entretien. On sait que c'est compliqué en plus le timing après la Vuelta, ça termine tard. Tu as le massage à aller faire maintenant. Bon, ça, c'est du plaisir par contre, le massage. Tu vas y aller.
Ouais, exactement. Ouais. Là, j'y tourne à 19h50. J'ai rendez-vous donc pour le massage. Raconter un petit peu la journée à mon Sergi. Et puis, qui est mon masseur. Et puis ensuite, ça sera l'heure du repas. Et puis, une bonne nuit, avant de réattaquer demain.
Merci beaucoup, Cyril. Très bonne soirée à toi. Et puis, je rappelle que
Merci à vous.
cette émission est aussi réécoutable, notamment sur les différentes plateformes en podcast. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve, nous, lundi prochain pour un nouveau Bistro Vélo. Salut!
Ciao, ciao, merci beaucoup.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.